Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, retour sur l'assassinat de la journaliste russe Anna Politkovskaya à Moscou le 7 octobre 2006. Une mort sur ordonnance, tel était le titre de l'un des principaux journaux russes, le Kommersant, au lendemain de la mort de la journaliste tuée par balle en bas de chez elle par un après-midi d'automne. Un titre qui en dit long sur le climat de suspicion qui règne autour d'un meurtre dont on ne connaît toujours pas, 12 ans plus tard, les commanditaires. Mais on se souvient que dans la Russie du début des années 2000, Anna Politkovskaya était devenue dangereuse pour le pouvoir, car elle était la journaliste qui défiait le président Vladimir Poutine, une insoumise qu'on ne pouvait pas arrêter avec des menaces. Travailleuse infatigable, elle était persuadée que le courage civique individuel finirait par avoir raison de l'état despotique. Connue dans le monde entier pour ses enquêtes sur les exactions russes en Tchétchénie, les violences dans l'armée, la corruption et les mensonges des responsables politiques, elle était devenue la figure de l'opposition médiatique à Poutine, elle le paiera de sa vie. 12 ans plus tard, Vladimir Poutine est toujours président de la Russie, réélu dimanche avec 77% des voix pour un quatrième mandat. Notre invitée après le récit, Véronique Dorman, journaliste à Libération, notre journal partenaire. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat également, et comme vous le savez, avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jakubowiez.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Moscou, samedi 7 octobre 2006. Il est 16h. Une voiture se gare devant le numéro 8 de la rue Lesnaya, dans le nord-est de la ville. Quelques instants plus tard, une femme de haute taille, âgée d'une quarantaine d'années, la démarche assurée, cheveux gris, fine lunettes, en descend. Les traits de son visage traduisent la fatigue et l'anxiété. Elle récupère les sacs de course dans le coffre de son véhicule, puis s'engouffre par le portail de son immeuble, les bras chargés de provisions. Sans doute préoccupée par ses contrariétés, elle ne remarque pas à ce moment-là les trois individus qui l'observent de l'autre côté de la chaussée. Arrivée à la porte de son appartement, au 7e étage de l'immeuble, elle dépose ses sacs sur le paillasson, puis appelle l'ascenseur pour redescendre au rez-de-chaussée et récupérer le reste de ses achats. Au même instant, deux hommes en noir pénètrent discrètement dans le hall d'immeuble. L'un se poste dans la cage d'escalier, l'autre près de l'ascenseur. Tous deux semblent attendre quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Les minutes passent, puis soudain la porte de l'ascenseur qui redescendait s'ouvre et sa lumière éclaire le rez-de-chaussée. À peine la femme qui l'empruntait pour aller rechercher ses courses a-t-elle eu le temps d'en sortir qu'un des deux individus braque sur elle un pistolet muni d'un silencieux. Il tire à plusieurs reprises, la femme s'effondre. 5 minutes plus tard, une habitante de l'immeuble découvre le corps ensanglanté dans le hall. Elle prévient immédiatement les secours. Mais à leur arrivée, les médecins ne peuvent que constater le décès. Pour la police, il s'agit d'un nouveau meurtre, sans doute crapuleux, comme il y en a tous les jours à Moscou. Point. Au même moment, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, est en visite sur les rives de la mer Baltique à Saint-Pétersbourg, à 700 km de là. Ville des stars, ville de Pierre le Grand, mais également ville natale du président russe, c'est ici qu'il a fait ses classes au sein du KGB, le service de renseignement de l'URSS. Saint-Pétersbourg, une ville où le président aime venir se ressourcer. D'autant plus que ce jour-là, c'est son anniversaire, le 54e. Et c'est ce jour-là qu'on lui annonce la mort de l'une des principales journalistes d'investigation russe, tuée quelques heures plus tôt à Moscou. En effet, vers 18h, les programmes des chaînes d'information russes sont interrompus par des flashs spéciaux. La personne tuée dans le hall de son immeuble plus tôt dans l'après-midi dans le centre de Moscou n'était pas une anonyme, non. C'était une journaliste, et pas n'importe laquelle. «
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce jour, nous parvient une nouvelle tragique en provenance de Moscou. En effet, on a retrouvé le corps sans vie de la journaliste Anna Politkovskaya, en bas de chez elle. Sur place, on a également retrouvé un pistolet et quatre doubles.
Anna Politkovskaya était une des journalistes les plus intrépides de Russie, une des rares qui n'avait pas peur de critiquer le pouvoir pour défendre ses idées. Les révélations qu'elle avait faites dans ses livres et ses nombreux articles sur la guerre en Tchétchénie avaient fait couler beaucoup d'encre et avaient provoqué un début de scandale en Russie.
Quatre jours plus tard, alors qu'il est en déplacement en Allemagne, Vladimir Poutine, qui tentait de minimiser l'affaire en ne faisant aucune déclaration publique, réagit enfin au micro de la télévision russe NTV.
Oui, il est vrai que cette journaliste avait pour habitude de critiquer les autorités fédérales. Je pense donc qu'elle devait savoir que ce qu'elle écrivait ne pouvait pas rester sans conséquence. Mais je vous rassure, son degré d'influence sur la vie politique en Russie était minime.
Cette intervention du président russe est à l'image de sa politique en matière de liberté de la presse et de droits de l'homme. Ici s'exprime tout son mépris, son cynisme et l'arrogance dont il fait preuve à l'encontre des journalistes et plus particulièrement contre ceux qui, comme Anna Politkovskaya, n'entrent pas dans le rang et se permettent de critiquer sa politique. Ici, dans une histoire dont les détails font d'abord songer au scénario d'un mauvais film d'espionnage et dans laquelle l'implication du Kremlin se dessine, la question arrive comme par réflexe. Qui se cache derrière le meurtre d'Anna Politkovskaya le 7 octobre 2006 à Moscou? Et surtout, pourquoi l'a-t-on assassinée? Comme souvent, il faut remonter en arrière, dérouler le fil, revenir 7 ans plus tôt, à une période où la Russie était empêtrée dans une guerre fratricide et sans issue dans la région du Caucase. 25 décembre 1999, Grozny. En ce jour de Noël, la neige tombe sur la capitale tchétchène, recouvrant les stigmates des derniers bombardements. Au loin, résonne encore le bruit des sirènes d'alerte et des bruits sourds de tirs à l'arme automatique. Voilà 4 mois, en effet, que cette petite république, grande comme 2 fois la Corse, située dans la région du Caucase, entre la mer Noire et la mer Caspienne, est frappée par la guerre. 3 ans après le premier conflit qui avait opposé les Tchétchènes aux Russes, le Kremlin a décidé de repartir en croisade contre les terroristes qui utiliseraient cette région comme base arrière pour commettre des attentats meurtriers à Moscou. Mais il apparaît très vite aux yeux de la communauté internationale que cette guerre contre des ennemis d'autant plus invisibles qu'ils se fondent dans la population ne peut déboucher que sur un massacre des populations civiles. Preuve en est, Grozny, pilonné jour et nuit par l'aviation russe, ressemble désormais à un cimetière à ciel ouvert. Les rues désertes ne sont plus délimitées que par un paysage d'immeubles en ruine, un peu comme le fut Sarajevo en Bosnie 7 ans avant. Les ONG recensent plus de 4000 morts et 8000 blessés parmi les civils. De son côté, le Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, estime que ce ne sont pas moins de 200 000 Tchétchènes qui fuient vers l'Ingouchie, une république voisine. Présents sur place, les reporters de France Inter, Nicolas Poincaré et Laurence Simon sont les témoins de ces scènes d'horreur.
La rue numéro 4 dans le quartier Oktoberskaya à Grozny, c'est dans le centre. C'est là qu'habitait Raisoun Dadaïev, père de famille de 40 ans, il y a 2 jours encore. Il en est sorti vendredi à pied à 4h du matin sous les bombes. Aujourd'hui, il est réfugié dans une tente, les pieds dans la boue, en Ingouchie.
Il y avait les bombes, la faim, il y a maintenant la neige. Côté Ingouche, des centaines de voitures attendent toujours de passer depuis 7h ce matin dans une cohue indescriptible. On contrôle simplement les passeports comme dans n'importe quel pays du monde, explique un colonel russe. Mais Mougamad a 67 ans, il veut aller rechercher ses enfants pris au piège là-bas, à 2 km.
Il n'y a plus d'hôpital à Grozny. Quand on demande à ce père de famille ce que deviennent les blessés graves, il répond sans émotion, eh bien il meurt.
De l'autre côté donc, Rosa raconte que les enfants ont froid, que l'on se cotise, 1 rouble par famille pour acheter du pain, mais que les Russes ne veulent pas les approvisionner.
Dans la rue numéro 4, il n'y a plus d'eau, ni d'électricité, ni de chauffage, plus aucun magasin ouvert pour faire ses courses. Raisoun Dadaïev parle de la solidarité des voisins qui se partagent ce qui leur reste de nourriture.
Les rumeurs les plus folles circulent ici. L'armée russe séparerait les hommes, les femmes et les enfants qui seraient seuls autorisés à franchir la frontière. Les troupes fédérales ont eu tout le temps, depuis 12 jours, de vérifier l'identité de tous les réfugiés.
Malgré les abominations quotidiennes qui s'y déroulent à seulement 2h30 d'avion de Moscou, on ne trouve sur place aucun journaliste russe. En réalité, les médias de ce pays évitent de s'intéresser au conflit et, quand ils en parlent, c'est à travers le prisme de la politique de Moscou. Bref, silence sur une réalité indicible. Les seules images reprises à la télévision sont celles de l'agence de presse RIA Novosti, qui dépend du ministère russe de l'information. Et pourtant, lorsqu'on interroge les habitants de Grozny, certains disent avoir rencontré une journaliste russe, oui, une femme aux cheveux gris, aux petites lunettes rondes, qui est venue jusqu'à chez eux pour les écouter et qui disait vouloir les aider. On raconte même qu'en plein bombardement, elle aurait aidé à évacuer des pensionnaires de l'asile de Vieillard pris dans la tourmente. Tout le monde semble connaître le visage de cette femme russe sans forcément savoir son nom. Aussi, il est nécessaire de leur présenter la photo de l'envoyé spécial du journal Novaya Gazeta, l'un des rares journaux d'opposition en Russie, pour enfin avoir confirmation. Cette journaliste présente en Tchétchénie depuis un mois, c'est Anna Politkovskaya. Mais comment cette jeune mère de famille d'origine ukrainienne, diplômée de la faculté de journalisme de Moscou, s'est-elle retrouvée là? Anna Politkovskaya, de son nom de jeune fille, Anna Stepanovna Mazepa, et que ses proches surnomment affectueusement Anya, est typiquement une enfant de la glasnost, la politique de transparence, et de la perestroïka, la politique de la restructuration de Gorbatchev. Née aux États-Unis en 1958, de parents travaillant pour le corps diplomatique soviétique aux Nations Unies, elle a eu la chance de grandir dans le milieu très privilégié de la nomenclatura, l'équivalent chez les communistes de la haute société occidentale. Passionnée de littérature et principalement de l'œuvre de Tolstoï, elle suit des études de journalisme à l'université, puis commence à travailler au début des années 80 dans les Izvestia, le journal du Soviet suprême. Mais très vite, elle dénote, car elle ne supporte pas le conformisme de la rédaction. Se prenant de passion pour l'enquête, elle change de publication et travaille pour les journaux qui critiquent ouvertement le nouveau président de Russie, Boris Yeltsin. Rapidement mariée à Alexandre Politkovsky, un journaliste engagé lui aussi, elle portera désormais le nom d'Anna Politkovskaya et devient mère de deux enfants. Journaliste à la Novaya Gazeta, elle se porte volontaire pour partir en ce mois de décembre 1999 dans un pays qu'elle ne connaît pas, la Tchétchénie, qui vit un enfer et qu'elle appellera le déshonneur russe. Alors, Anna Politkovskaya raconte le martyr des civils sur place. Elle écrit l'histoire de tous ces gens qui sont arrachés de leur maison au milieu de la nuit et qui ne reviennent jamais. De ces hommes alignés au bord de la route et battus à mort par des soldats russes ivres. Ou encore, l'histoire de ces exécutions sommaires dont on dit qu'elles ont lieu parfois en pleine ville. Elle raconte l'histoire de ces milliers de réfugiés affamés qui s'entassent dans des camps froids et humides à la frontière avec l'Ingouchie voisine. Une accumulation de violations des droits de l'homme que le Kremlin voudrait ne pas ébruiter. Et c'est ainsi qu'au fil des jours, le travail d'Anna Politkovskaya va la placer dans le camp des ennemis du pouvoir. Très vite, à travers le témoignage des centaines de personnes qu'elle rencontre, la journaliste va mettre le Kremlin face à ses responsabilités et face à ses démons aussi. Elle relate les multiples crimes de guerre commis par l'armée russe sur les populations locales, meurtres, viols, violences et raquettes. Mais aussi, elle révèle les exactions commises au cœur même de l'armée russe. Oui, des pratiques de bizutage et de persécution d'une rare violence qui jusqu'alors était passée sous silence. Tout juste parlait-on de rumeurs. Preuve en est, cet enregistrement réalisé par Dorothée Oliéric pour le magazine Envoyé spécial dans un foyer d'entraide où un père raconte comment il a aidé son fils à déserter pour le protéger.
Pourquoi êtes-vous allé chercher votre fils?
Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Si je ne l'avais pas fait, il serait invalide. Si je n'y étais pas allé, c'est dans un cercueil que je l'aurais récupéré. Et je voulais pas de ça.
Donc vous êtes allé là-bas?
Oui. J'ai pris la décision à 100% de le faire déserter.
Est-ce qu'il y a eu des tentatives de viol?
Oui. Oui, mon fils m'a raconté ça.
Oui, c'est vrai.
Ça t'est arrivé à toi?
Oui.
Mais ils n'y sont pas arrivés.
Si vous n'étiez pas allé le chercher, qu'est-ce qui serait arrivé?
C'est Dieu qui m'a dit, va le chercher.
J'étais à bout de nerfs. J'aurais pu tuer quelqu'un. Quand on te traite comme ça, tu es capable de tout.
La maltraitance dans l'armée russe en 1999, c'est au quotidien la violence, la torture, les brimades, les bastonnades, voire les électrocutions dans les casernes d'appelés ou dans les camps d'entraînement. Selon Novaya Gazeta, ce fléau toucherait un appelé sur trois, soit près de 30 000 jeunes soldats. Malgré les efforts d'Anna Politkovskaya, le sujet est tabou en Russie. L'armée reste l'armée avec sa gloire passée, ses symboles et son silence. Alors, rares, oui rares, sont ceux qui osent parler par peur des représailles. Pourtant, c'est à eux que va s'adresser Anna Politkovskaya, car la journaliste veut comprendre et surtout, elle veut pouvoir dénoncer avec des preuves. Au fur et à mesure de ses articles, se dessine une terrible réalité. Ce que l'on fabrique en Tchétchénie avec ces jeunes soldats qu'on envoie sur le champ de bataille, c'est le visage violent de la Russie de demain. La journaliste parle même d'un syndrome tchétchène. Et tout cela la conduit naturellement à mettre au banc des accusés Vladimir Poutine, incapable selon elle de remettre en question sa politique militaire, qui en Tchétchénie est un véritable désastre. Nous sommes en 1999, Anna Politkovskaya vient de mettre le pied dans un engrenage qui va conduire à son assassinat, 7 ans plus tard.
On dit qu'il y fait toujours beau, c'est là que migrent les oiseaux, on dit ça. Ça y est, je pars, je m'en vais à l'autre bout du monde. L'autre bout du monde. L'autre bout du monde. J'arrive sur les berges d'une rivière. C'est ta voix à l'autre bout du monde. Ta voix qui me dit mon trésor. Tout ce temps je n'étais pas mort. Je vivais à l'autre bout du monde. L'autre bout du monde. Sur la rivière, il pleut de l'or. Quand je m'endors, mais je veux te revoir encore. Où est-il? L'autre bout du monde. L'autre bout du monde. L'autre bout du monde. L'autre bout du monde.
Nous supplions les forces de l'ordre de ne pas donner l'assaut. Nous écoutons les commentaires et nous avons peur. Nous avons l'impression qu'on nous a condamnés. Nous voulons vivre. Nous voulons que les gens descendent dans la rue et qu'ils demandent le retrait des troupes russes en Tchétchénie. Surtout qu'on ne tire pas sur les combattants tchétchènes pour qu'il n'y ait pas d'action et qu'ils ne considèrent pas ça comme une agression. Ne nous abandonnez pas, l'ambiance ici est extrêmement tendue.
Mercredi 24 octobre 2002, théâtre de la Dubrovka, Moscou. Scène de cauchemar, en plein cœur de la capitale moscovite. Voilà presque 24 heures que quelques dizaines de mètres plus loin, à l'intérieur du théâtre, se déroule une prise d'otage sous l'œil des caméras du monde entier. La veille, en plein spectacle, un commando d'une quarantaine d'individus, cagoulés et armés de Kalachnikov, a fait irruption sur scène et retient désormais près de 800 personnes, dont 70 enfants. se revendiquant tchétchènes, ils n'ont qu'une exigence, que les troupes de l'armée russe quittent immédiatement le territoire de la petite république de Tchétchénie et que des négociations de paix s'ouvrent enfin après 3 ans de combat. Les négociations commencent, mais personne ne veut céder. Au Kremlin, Poutine se tait, et pour cause. Ce qui se passe à quelques centaines de mètres de la place Rouge est un camouflet pour lui. C'est la preuve indéniable de son échec en Tchétchénie qu'il a envahi et qui lui revient en pleine face, comme un boomerang. Vers 11h, le commando qui menace de faire sauter le théâtre demande à parler à plusieurs intermédiaires, dont certains sont membres de l'opposition politique. Mais il demande aussi à pouvoir converser avec la journaliste Anna Politkovskaya. Car depuis les débuts de la guerre, en Tchétchénie, elle est devenue l'enquêtrice la plus utile pour tous ceux qui veulent résister à Poutine, qu'ils soient russes ou tchétchènes. Mais là, Anna franchit la ligne symbolique entre le journalisme et la participation aux événements qu'elle couvre. La journaliste joue désormais sur 2 tableaux. Arrivée sur les lieux, elle dialogue 1h30 par téléphone avec le chef du commando. Mais elle ne sait pas qu'à quelques mètres de là, le ministère de la Sécurité a déjà fait un autre choix, celui d'un assaut du théâtre par le commando Alpha du FSB. L'affaire de la Dubrovka doit servir d'exemple. Dans la soirée, la journaliste est remerciée. Le lendemain matin, la police donne l'assaut dans une confusion totale. Des coups de feu sont tirés, puis on entend plusieurs explosions. Personne ne sait exactement ce qui se passe. Un quart d'heure plus tard, les premiers otages sont libérés. Certains sont portés, d'autres sont emmenés dans des bus. Pour certaines familles, bien sûr, c'est le soulagement.
Oh, ma Nathalie, ma fille, tu es vivante. Tu m'as tant manqué. J'ai senti qu'il y avait du gaz, j'étais étourdi, j'ai entendu des coups de feu, mais qui tirait sur qui, je ne sais pas. J'ai sombré et me suis réveillé à l'hôpital. On m'a dit que j'étais intoxiqué au gaz, quel gaz, je ne sais pas, mais que c'était pas grave. Vraiment pas grave. Moi aussi j'ai senti le gaz, mais je ne me suis pas endormie, j'étais vaseuse, un peu bizarre. J'ai vu les femmes tchétchènes s'écrouler d'un coup, et puis on m'a portée, on m'a transportée, on m'a tenue, on m'a emmenée dehors, mais je ne comprenais pas ce qui se passait et à vrai dire je ne me souviens pas très très bien. On est tellement heureux de la retrouver, c'est ma femme, mais notre belle-fille est toujours dans le coma et on ne sait pas si elle sera sauvée.
En réalité, l'assaut a été un carnage. Le bilan dépasse les 150 victimes et il y a 500 blessés. Les terroristes, eux, sont tous morts. Les blessés ont été achevés d'une balle de Kalachnikov dans les tympans. Et puis, très vite, les rumeurs se multiplient. Les commandos russes auraient utilisé du gaz pour neutraliser les terroristes, un gaz inconnu qui serait à l'origine de la mort par asphyxie ou de l'intoxication des otages. Dans les jours qui suivent, la polémique enfle sur l'usage de ce produit présenté par le chef de la police de Moscou comme incapacitant mais non létal. D'autant qu'à la lecture des analyses de sang de certains survivants, des journalistes britanniques avancent l'hypothèse que les forces spéciales russes ont utilisé ce jour-là en plein cœur de Moscou un dérivé du gaz sarin hautement toxique, mortel. Alors, le Kremlin était-il prêt à sacrifier des otages pour sa démonstration de force ? Oui, répond Anna Politkovskaya, cela ne fait aucun doute. De passage en France, pour parler de son nouveau livre sur le plateau de Tout le monde en parle, face à Thierry Ardisson, elle revient sur cet assaut.
Le 25 au soir, tard le soir, quelques heures avant l'assaut, il y avait une véritable, une réelle possibilité de se mettre d'accord parce que les exigences étaient très simples. Et deux, trois de ces conditions, eh bien, on pouvait les remplir très, très rapidement et on aurait pu libérer tous les otages et éviter toute l'horreur qu'on a vue après, le gaz, la mort de centaines de personnes, dont certaines de mes amies. Mais tard le soir, le 25, malheureusement, j'ai compris que les gens du côté fédéral, si je puis dire, ont perdu tout intérêt pour des négociations, n'avaient plus besoin de mes efforts, n'avaient plus envie de mener des négociations et voulait justement mener l'assaut.
Dans les jours qui suivent, le journal pour lequel travaille Anna Politkovskaya, Novaya Gazeta, interroge des survivants et dénonce une tuerie délibérée. Les locaux du journal sont perquisitionnés, les journalistes menacés. Pour Anna Politkovskaya, qui avait déjà subi des pressions par le passé, c'est le début de la descente aux enfers. Deux ans plus tard, arrivera un premier avertissement cinglant contre la journaliste. comme une tragédie qui se répète, en septembre 2004, à Beslan, en Ossétie du Nord, une zone proche de la Tchétchénie, un groupe de combattants tchétchènes s'enferme dans un gymnase avec plus d'un millier d'otages, en grande majorité des enfants. Immédiatement, Anna Politkovskaya tente de se rendre sur place et se propose comme négociatrice. Mais le Kremlin ne l'entend pas de cette oreille et le lui fait comprendre en l'empêchant de monter dans l'avion pour l'Ossétie. Ensuite, alors qu'elle prenait un autre vol pour Rostov-sur-le-Don, une ville située à mi-parcours, elle tombe dans le coma et échappe de peu à la mort. Une syncope d'autant plus inexpliquée que ses examens sanguins seront détruits par inadvertance. Premier avertissement, tentative d'assassinat par empoisonnement comme le KGB le faisait avec les dissidents à l'époque de l'Union soviétique. Pas de réponse sur ce point évidemment, mais ce jour-là, Anna Politkovskaya est passée à un cheveu de la mort. Sur place à Beslan, dans les jours qui suivent et dans des conditions qui restent obscures, l'assaut des forces spéciales est donné. Et comme pour celui du théâtre de Dubrovka, il tourne massacre et fait près de 300 morts, principalement des enfants. Mais pour Vladimir Poutine, pour qui la guerre est avant tout une guerre d'image, l'honneur est sauf, car tous les terroristes sont morts. Moscou, 5 octobre 2006. À la rédaction de la Novaya Gazeta, Anna Politkovskaya est à son bureau. La journaliste prépare un article sur la torture couramment pratiquée dans le Caucase et sur le cas particulier d'un Tchétchène, Beslan Gadaïev, contraint d'avouer sous les coups 3 meurtres qu'il n'a pas commis. La journaliste est en retard dans son travail et de surcroît, elle a promis à l'un de ses amis de Radio Liberté de lui accorder une interview pour expliquer le sens de son article. Des raisons sur lesquelles elle revient également devant la caméra de son amie Marina Goldovskaya.
Cette guerre a duré près de 3 ans. Pendant toute cette période, j'ai essayé plusieurs choses. Aller vivre en Tchétchénie et rencontrer les gens. Oui, plein de choses différentes. Aujourd'hui, je me sens profondément en colère. Parce que je réalise que pendant ces 3 années, grâce à tous les impôts que nous payons, notre armée se livrait aux pires tortures médiévales sur tous ces gens qui étaient l'objet de leur fureur.
Cet article incrimine autant les forces russes que le nouveau président tchétchène Ramzan Kadyrov, qu'elle accuse ouvertement de n'être qu'un petit tyran à la solde de la Russie, parrain d'une mafia financée par Moscou, qui voit en la personne d'Anna Politkovskaya un témoin de plus en plus gênant. Ce qui est inquiétant, c'est que des meurtres de journalistes, il y en a eu déjà 13 depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine en 2000. Alors qu'en vient le jour où elle est retrouvée assassinée par balle le 7 octobre 2006 en bas de son immeuble, tous les regards, oui tous, se tournent vers le Kremlin et vers Vladimir Poutine. Et puis la méthode utilisée laisse penser à une implication des autorités russes dans ce meurtre. Rue Lesnaya, sur le lieu de son assassinat, les experts retrouvent 4 douilles de Makarov 9 mm à quelques mètres du corps de la journaliste. Un peu plus loin, l'arme du crime est là, elle aussi, bien en évidence, comme si tout était fait pour remonter jusqu'au coupable. Premier détail étonnant, l'arme utilisée est un pistolet très répandu en Russie puisqu'il équipe les militaires, la police et les agents du FSB. La méthode, ensuite, est digne des grandes années du KGB. Parmi les projectiles mortels, l'un est logé en plein centre du front, l'autre en plein cœur. Cette signature, dite de la double mort, celle de la mort intellectuelle et celle de la mort physique, a été pendant des années la marque de fabrique des agents soviétiques lors de leurs opérations d'élimination. Voilà, comme ça c'est clair. Mais qui a tiré ? Un an plus tard, malgré les effets d'annonce à répétition, l'enquête traîne et semble jamais pouvoir aboutir. Le Kremlin, de son côté, est sans doute pour se dédouaner de toute implication, tente de faire porter la responsabilité de l'assassinat sur les oligarques expatriés tels Boris Berezovsky, qui sera lui-même assassiné plus tard. Une manière d'évoquer ou d'inventer la main d'étranger et la volonté de déstabiliser Vladimir Poutine. Pour Robert Ménard, président à l'époque de Reporters sans frontières, il s'agit d'un meurtre téléguidé.
Le problème, c'est que les Occidentaux ne disent absolument rien, Monsieur Poutine. Ils n'osent rien lui dire. On a tellement besoin de lui, ou on pense qu'on a tellement besoin de lui, que tout le monde se tait. Cet assassinat de cette journaliste, c'est pas comme ça un éclair dans un ciel bleu. Il y a toute une série d'assassinats ces derniers mois de gens qui gênent le Kremlin. Elle les gênait particulièrement parce qu'elle montrait du doigt ce qui se passait en Tchétchénie. Et en plus, elle était en train de faire une enquête sur la torture en Tchétchénie. Vous imaginez si ça gêne M. Poutine et ses amis.
preuve de cette gêne, il y a aussi cette sombre histoire d'enlèvement dont elle a été victime en Tchétchénie en 2001. Un enlèvement par les militaires russes qui l'ont séquestrée pendant 48 heures. Mais Anna restait une insoumise, malgré tout. Pour les enquêteurs, les soupçons visent principalement un groupe de Tchétchènes pro-russes qui auraient agi en liaison avec des agents ou des anciens agents des services de sécurité. En août 2007, un an plus tard, une première vague d'arrestations conduit à la mise en détention d'une dizaine de personnes, parmi lesquelles d'anciens responsables du FSB, les services russes de sécurité intérieure, descendants du célèbre KGB. Pour Dimitri Muratov, rédacteur en chef de la Novaya Gazeta, ce sont à coup sûr des agents des services de sécurité russes qui ont organisé et coordonné le meurtre. Il en est d'autant plus sûr qu'il connaissait les menaces dont était victime la journaliste. Et puis, à plusieurs reprises, elle lui avait confié que s'il lui arrivait quelque chose, il fallait chercher du côté du Kremlin. En novembre 2008, s'ouvre le procès à Moscou. Fondé sur une enquête incertaine, les audiences n'apporteront pas les éclairages nécessaires à l'établissement de la vérité, comme on dit en langage judiciaire. Et au bout du compte, les quatre exécutants présumés, parmi lesquels figure un membre de la police criminelle de Moscou et un ancien agent du FSB, sont acquittés tous. Mais le verdict sera annulé par la Cour suprême, un camouflet pour la justice russe, un échec patent selon le Conseil de l'Europe, à l'image d'ailleurs de toute cette affaire et de cette procédure judiciaire bâclée de bout en bout. En 2012, l'ancien policier Dimitri Pavlyuchenkov, accusé d'avoir localisé Anna Politkovskaya et fourni l'arme pour l'assassiner, est condamné à 12 ans de prison. Puis lors d'un grand procès en 2014, l'organisateur et l'exécutant du meurtre de deux hommes d'origine tchétchène sont condamnés à la prison à vie. Trois autres complices sont également emprisonnés. Pour les autorités russes, dès lors, justice a été rendue. Pourtant, aujourd'hui encore, 9 ans après les faits, personne ne sait réellement qui sont les commanditaires. S'agit-il d'agents du FSB, proches du pouvoir et donc protégés ? S'agit-il du président tchétchène, Ramzan Kadyrov, qui voulait vouer une haine sans limite à la journaliste ? Et surtout, quid du rôle de Vladimir Poutine dans cette affaire ? Poutine, qui avait lui-même déclaré aux médias français avoir le contrôle absolu sur toutes les opérations de ses services, pouvait-il ignorer cet assassinat en plein Moscou ? Autant de questions, aujourd'hui sans réponse. Mais il reste l'œuvre de la journaliste, des centaines d'articles, des dizaines de reportages documentés, plusieurs livres de témoignages, autant de preuves à charge contre le système Poutine à jamais inscrites dans l'histoire. Ce qui permet de dire, à titre de consolation, si tant est que cela soit possible, qu'Anna Politkovskaya n'est pas morte pour rien.
Il est impossible pour moi de rester sans réagir tandis qu'un long hiver de glace s'installe en Russie. Que les lois, nos droits et nos libertés individuelles soient bafoués par un État et un pouvoir plus tyrannique que jamais. Comment faire pour continuer d'être libre ? Comment leur faire comprendre qu'ils ne pourront jamais nous asphyxier ? Sur qui pouvons-nous compter pour nous aider ? Face à ces questions, je ne sais pas si l'avenir saura nous apporter des réponses, mais je sais que moi, Anna Politkovskaya, ils me trouveront toujours sur leur chemin. Of the Soviet, Mr. Khrushchev said we will bury you. I don't subscribe to this point of view. It would be such an ignorant thing to do if the Russians love their children too. How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There is no I say to you, I hope the Russians.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Anna Politkovskaya, la journaliste qui défiait Poutine. Notre invitée, Véronika Dorman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Libération, c'est notre journal partenaire une fois par mois, c'est donc aujourd'hui. Vous étiez la correspondante de Libé à Moscou entre 2009 et 2016. Et puis vous êtes retournée sur place pour couvrir la présidentielle. Alors on connaît la suite de ce scrutin, Poutine 77%. Dire qu'on était étonné serait mentir. Ça vient d'où cette adhésion des Russes à cet homme-là pour un quatrième mandat? Nous, on voit un homme inquiétant. Alors, peut-être que c'est un raccourci, mais on voit quand même un homme plutôt inquiétant. Les Russes voient un homme de confiance, apparemment. D'où ça vient, cette adhésion?
Il y a plusieurs choses. Il y a un véritable effet de propagande, d'abord, dans le sens où, médiatiquement, il n'y a que Poutine qui existe. Et dans le paysage politique russe, on ne voit que lui. Et quand on parle, quand on fait un micro-trotte et qu'on demande aux Russes quels sont les hommes politiques auxquels ils font confiance, en fait, ils n'ont pas tellement le choix, parce qu'à part Poutine et peut-être Medvedev, qui a été son tandem, l'actuel Premier ministre, et qui a été président par intérim...
Oui, son homme de paille.
Voilà. Mais, de manière générale, le paysage politique est assez méconnu des Russes. Et puis, il y a le fait que Poutine est au pouvoir depuis tellement longtemps que la stabilité a été érigée en religion, en valeur nationale, en bien absolu, et que réélire le même homme, c'est assurer une espèce de stabilité, même si c'est une stabilité qui devient de moins en moins confortable et de moins en moins rassurante. Les Russes ont très peur des changements, en fait. Globalement, parce que à chaque fois qu'il y a une révolution, à chaque fois qu'il y a des bouleversements, ça s'est plutôt mal terminé.
Oui, effectivement. Ils sont à bonne école.
Donc voilà. Donc, et puis ensuite, si on demandait, l'ambiance était assez morose en Russie, là, juste avant les élections. Les Russes avaient aucun doute quant à l'issue des élections.
Ça veut dire pas d'attente non plus.
Pas d'attente particulière. On demandait aux gens, est-ce que vous allez voter? Y compris ceux qui étaient pas forcément contre Poutine, disaient que ça servait à rien d'aller voter parce que de toute façon, il sera élu. Donc, il y avait pas d'euphorie particulière. Et il y avait une espèce de résignation et de sentiment que rien n'allait changer, que tout allait rester comme par le passé.
La résignation, ça semble être le mot clé. Alors pendant 7 ans, vous avez travaillé donc en Russie pour un média étranger, en l'occurrence français. Alors on a entendu le récit autour de Anna Politkovskaya. Tiens d'ailleurs, petit cours de russe, j'ai dit Politkovskaya tranquillement pendant tout le récit. Et puis vous m'avez dit avec justesse, Véronika Dorman, qu'on dit bien Politkovskaya. Enfin, bon, c'est pas très grave, mais enfin, c'est mieux si on le dit comme ça. J'en ai oublié ma question. Oui, alors comment, sans aller jusqu'au drame d'Anna Politkovskaya, travaille-t-on quand on est journaliste en Russie, et y compris pour un média étranger?
Alors, les correspondants étrangers sont privilégiés en Russie parce que nous ne sommes pas sous la même pression que les médias russes, parce que pour le pouvoir, on n'a pas beaucoup d'importance, on ne les intéresse pas énormément. Ça a peut-être un peu changé ces derniers temps, surtout depuis 2014.
Depuis l'intervention en Syrie aussi, j'imagine.
Voilà, parce que il y a un nouveau front dans la confrontation entre la Russie et le reste du monde, c'est le front médiatique. Mais jusqu'à, on va dire, 2014, il y a l'annexion de la Crimée et cette espèce d'implosion des relations entre la Russie et l'Occident, les journalistes occidentaux ou étrangers étaient une gêne, parce qu'on allait fouiner là où il fallait pas aller fouiner, mais en même temps, comme on n'avait aucune incidence réelle, pensaient les autorités sur l'électorat russe ou sur les citoyens russes, ils nous surveillaient pas trop. Alors, c'est pas vrai parce que les grands correspondants ou certainement les agences sont sur écoute. Mmh. Quand on partait dans le Caucase, que ce soit en Tchétchénie ou au Daghestan, on était suivi, c'était certain. Ouais. On était fliqué par les travailleurs des hôtels. Ou alors c'était assez ouvert. Il y avait des gens qui nous attendaient dans le lobby. Mais c'était pas une. Moi, je me suis jamais senti en danger, par exemple. Et je pense que généralement, on se sent beaucoup moins en danger parce qu'on s'expose beaucoup moins. Que la principale difficulté, c'est plutôt l'opacité des structures, le fait qu'ils font pas confiance aux étrangers. Donc pour avoir une interview avec un officiel, c'est beaucoup plus compliqué. Ils nous considèrent comme pas dignes de confiance, donc on a moins d'accès.
Alors, comment ça se passe maintenant pour vos confrères et consoeurs russes? Comment le Kremlin arrive-t-il à verrouiller l'information dans ce pays?
par des moyens divers et variés. Les chaînes fédérales, donc 70% de la population russe reçoit son information par la télévision.
Oui.
C'est énorme. Et les chaînes fédérales donc sont toutes contrôlées par l'État. Et donc ça va des listes de sujets qu'il faut traiter ou ne pas traiter, des noms, des listes noires de personnages qu'il ne faut pas citer, d'accents à déplacer, de fake news carrément fabriquées, de sujets mensongers. Voilà. Et puis à l'étouffement des médias indépendants ou des ou dissidents.
En gros, c'est ce qu'on connaissait en France dans les années 60 où le directeur de l'information était aussi le ministre de, je sais pas comment on appelle ça, de la communication peut-être, enfin, de la culture, voilà. Bon, c'était ça en gros.
Là, c'est un peu plus subtil parce qu'on n'a pas, il y a pas de ministère.
C'est le principe, quoi.
Mais voilà, en tout cas, les médias, en tout cas, jouent un rôle très très important dans la formation du discours politique, et puis du discours officiel. Mm-hmm. C'est la télévision qui donne le là et qui explique comment est-ce que le pouvoir réagit à telle ou telle situation. Et ensuite, tous les médias, et puis petit à petit. Ces dernières années, tout ce qu'il y avait de médias indépendants ou autonomes ou critiques se sont fait étouffer. Et il reste aujourd'hui. Alors, par ailleurs, il y a Internet maintenant. Et c'est pour ça que c'est très difficile de dire qu'il n'y a pas du tout de liberté de parole en Russie, parce que c'est pas vrai. Il y a Internet et il y a des médias en ligne et qui continuent d'exister, qui sont extrêmement courageux. Le problème, c'est que c'est pas du tout le même auditoire. Et que les gens qui s'informent en ligne et qui lisent ces médias, c'est déjà des conquis, c'est déjà des gens qui adhèrent déjà et qui sont déjà critiques. C'est cet équilibre-là qui est un peu difficile à faire basculer.
Alors, on va écouter une archive ensemble, et là on va repartir à l'époque de la Tchétchénie et d'Anna Politkovskaya. Nous sommes en 2002, c'est un sommet entre la Russie et l'Europe. Un journaliste français du quotidien Le Monde interpelle Poutine sur la guerre en Tchétchénie. Alors vous allez entendre le président russe lui répond sur le ton de la menace.
Don't you think that ne pensez-vous pas qu'en tentant d'éradiquer le terrorisme en Tchétchénie, vous risquez aussi d'éradiquer la population civile de Tchétchénie?
Si vous voulez devenir un islamiste radical, et si vous voulez vous faire circoncire, venez à Moscou. Nous sommes multiconfessionnels et nous avons de très bons spécialistes. Je peux même vous en recommander un pour l'opération. Et il fera en sorte que rien ne repousse.
Bon, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Il parle plus comme ça. Enfin, moins souvent.
C'était 2002. Hein.
Ouais. Non, il est. Il tourne en dérision les questions. C'est vrai, il y a des grandes conférences de presse internationales qu'il a mieux organisées, en fait, quand il reçoit 1000 journalistes venus de Russie et de la terre entière pour l'interviewer en direct pendant plusieurs heures. Et en général, il essaie d'être goguenard et il essaie d'être drôle. Quand on lui pose des questions qui dérangent, il répond jamais frontalement.
Mmh. Enfin, il en vient inquiétant.
Mais voilà, il est pas menaçant. C'est pas lui qui est menaçant en fait. C'est pas lui qui il en profère plus de menaces. Et Poutine a vraiment appris. Et c'est vrai que Poutine a appris à ne pas dire de choses sur lesquelles on pourrait le coincer. Il était beaucoup moins lisse au départ dans les premières années. Et aujourd'hui, sur des tas de sujets même dont on accuse le Kremlin, on peut pas trouver une citation directe de Poutine en train de dire certaines choses. Parce qu'il est devenu prudent.
Absolument. Alors, les journalistes, vos consoeurs à Moscou commencent à prendre leur part de liberté, dénoncent, je crois, du harcèlement sexuel à la Douma. Hein. C'est ça, la Douma, c'est la chambre basse du Parlement russe. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un mouvement libératoire, comme libératoire par la parole aussi, comme en Occident, on fait pareil ou...
Non, c'est pas pareil.
Ou c'est pas la même chose.
En fait, le mouvement MeToo, la déferlante qui a eu en Occident, aux États-Unis, en Europe, n'a pas du tout touché la Russie, ou en tout cas, si on en a parlé, les médias officiels ont tourné en dérision, il y avait au même moment des filles russes qui se baladaient avec le hashtag « Je suis Weinstein », de très bon goût. Et là, ce qui s'est passé récemment, c'est que quelques journalistes qui travaillent en fait pour des médias, pour la chaîne BBC Russie par exemple, ou pour TV Rain, une chaîne d'indépendantes russes, ont dénoncé du harcèlement sexuel par un député. Et elles ont parlé ouvertement. Elles ont participé à un comité devant la Douma où elles ont expliqué ce qui leur est arrivé. Et il y a eu des tas de médias aussi qui sont mobilisés pour les soutenir, mais ça a fait pchit en fait parce que les députés eux-mêmes font front uni autour de leurs députés, y compris les femmes qui considèrent que ces filles ont qu'à mieux s'habiller, ont qu'à pas porter de décolleté, enfin des choses que nous on n'entend même plus tellement ici parce qu'on n'ose plus le dire. Voilà. Donc, mais en même temps c'est la première fois qu'il y a eu cette espèce de mouvement un peu collectif parce que des médias, pas seulement des médias réputés complètement indépendants, se sont mobilisés et ont décidé qu'ils boycotteraient la Douma ou qu'ils boycotteraient ce député Slutsky en question. Donc pour l'instant, ça n'a pas eu de conséquences, mais c'est des petites pousses comme ça, des petits niguets peut-être.
Mais toutes les réponses que vous me donnez pour l'instant montrent, prouvent, confirment qu'on ne doit pas regarder la Russie avec notre prisme occidental et français, que ce n'est pas les mêmes repères. Pas la même société du tout.
Absolument, mais je pense que c'est la grosse erreur que nous faisons et c'est ce que les Russes nous reprochent beaucoup aussi. Il n'y a pas que la propagande du Kremlin qui nous reproche d'être russophobes, il y a aussi des Russes qui aiment beaucoup l'Occident et qui nous aiment beaucoup et qui attendent beaucoup aussi de notre regard sur eux et qui trouvent que c'est un regard simpliste. Que nous n'allons pas assez loin, que nous sous-estimons des rapports de force qui ne sont pas les nôtres et que c'est un mélange d'archaïsme et de modernité et que tout est différent.
Faut relire Tchekhov, toujours, pour l'amour russe, hein. Ça peut éclairer un peu. Dans le récit, on est donc revenu, évidemment, sur l'assassinat d'Anna Politkovskaya, journaliste chez Novaya Gazeta. Alors, est-ce qu'elle détonnait, cette journaliste, par rapport à ses confrères et consoeurs russes? Est-ce que c'était la seule, comme ça, à prendre autant de risques?
Je pense qu'à l'époque, oui, et puis aujourd'hui... Alors après, c'est toujours une histoire de solitaire, c'est toujours une histoire d'héroïsme un peu solitaire, comme ça, en Russie. Et déjà, à l'époque, elle était considérée comme l'une des seules et des plus courageuses, et Novaya Gazeta est restée aussi ce média qui produit des journalistes, des femmes, seules, qui continuent, et il y en a encore aujourd'hui quelques-unes, qui continuent à aller dans ces régions extrêmement dangereuses, qui continuent à prendre des risques que nous, on considérait comme inconsidérés, justement, pour écrire, pour dénoncer, parce que la guerre en Tchétchénie est peut-être terminée, mais sur le papier, en fait, il y a une guerre latente qui continue, il y a une violence terrible qui continue au sein de la société, il y a des disparitions qui continuent, la torture continue, et la mort d'Anna Politkovskaya n'a pas mis fin à ça, ni la fin officielle de la guerre n'a mis fin à cette situation, et donc il y a encore des choses à raconter, il y a toujours des gens qui continuent de le faire. Et donc Politkovskaya reste cette figure, cette espèce d'étalon inatteignable, parce que c'est aussi une
icône,
une femme,
aussi.
Une icône, et puis c'est sa personnalité, c'est-à-dire que c'est pas juste, on peut pas apprendre à être elle, il faut être elle. Mais pour les jeunes journalistes, et surtout les journalistes qui rêvent d'un véritable journalisme franc et honnête et intègre et courageux, elle reste vraiment un symbole et un exemple. Mais le journalisme n'en est plus là du tout aujourd'hui en Russie, globalement.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez me dire par là, qu'il en est
que
plus là?
Que le métier tel qu'on connaît, que nous le connaissons, n'existe pas, que même pour qu'il est en train de se désintégrer, de se recréer. C'est-à-dire que les gens qui veulent travailler honnêtement sont obligés de trouver des formats alternatifs. Que quand on veut juste informer, on peut pas le faire par les canaux classiques tels que nous les connaissons ici. Ça peut pas être juste avec une caméra, avec un micro, parce qu'il y a toujours une commande politique derrière, parce qu'il y a toujours une intention, et parce que quand tu veux dire les choses comme elles sont, tu risques de te prendre un coup sur la tête. Et donc, il faut trouver des moyens alternatifs pour...
Bien sûr. On va exercer un petit droit de suite, parce que les auditeurs, le public aiment ça, justement, il a bien raison. Le Caucase, la Tchétchénie, on en a beaucoup parlé, puis on n'en parle plus, comme si tout le monde s'en fichait maintenant. Or, vous dites qu'il y a encore des violences, en quelques phrases, puisque vous êtes retourné en Tchétchénie.
Moi, j'y suis retourné il y a 2-3 ans.
Ouais, c'est récent.
Dernièrement.
Qu'est-ce que vous avez vu? On en est où?
Alors on en est où? Le deal passé entre Poutine et Kadyrov, c'est que il n'y a plus de terroristes qui sortent de Tchétchénie pour organiser des attentats en dehors du Caucase. Donc ce deal-là est respecté. Effectivement, Kadyrov a réussi à mettre les rebelles sous une chape de plomb, mais au prix de d'avoir terrorisé sa propre société.
J'imagine.
Mais la dernière vague, et ça vous en avez certainement entendu parler, la dernière vague de violence qui a touché la Tchétchénie, c'est l'espèce de campagne anti-LGBT où plusieurs dizaines d'hommes ont été enlevés, torturés, certains tués, quelques-uns ont réussi à s'échapper et sont maintenant ont obtenu l'asile dans des pays occidentaux. Et c'est tout ça au nom des valeurs tchétchènes, au nom de la tradition, au nom de Donc c'est une, c'est donc et les milices et les et la police tchétchène travaillent sont enfin dans un arbitraire absolu. La les gens simples n'ont aucune prise là-dessus et voilà. Et donc il y a et les ONG ne peuvent plus travailler. Elles se sont fait expulser graduellement par des moyens très violents aussi. Le cas le plus récent, c'est les mémorials, le bureau de mémorial qui a été incendié et le dernier représentant de l'ONG Mémorial de défense des droits de l'homme qui est sous les verrous accusé de trafic de drogue. Donc voilà, c'est une terre de non-droit avec un tyran qui règne.
Le tableau reste sombre. Lors de l'intervention russe en Crimée et en Ukraine en 2014, évidemment, on remarque comme ça qu'il y a des événements les uns après les autres qui viennent heurter notre logique occidentale. Hein, la Tchétchénie, la Crimée, l'Ukraine, alors donc ça participe de l'image inquiétante de Poutine. Et bien les rapports entre Paris et Moscou ont fini par se tendre. Hein. Il y a eu ensuite l'épisode du refus des Français de livrer les porte-hélicoptères Mistral commandés et payés par les Russes, le refus par la suite d'accueillir Vladimir Poutine à Paris pour l'inauguration de la grande basilique orthodoxe qu'ébranlie. Alors avec l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, les relations entre les deux pays s'étaient améliorées en façade en tout cas. Là on sait que rien ne va plus avec l'affaire Skripal, du nom de cette exception russe, Sergueï Skripal, retrouvé inconscient devant un centre commercial de Salisbury, une petite agglomération de la campagne anglaise. Voilà, alors l'Europe et la Russie traversent une crise qui rappelle par certains aspects celle de l'affaire Litvinenko en 2006. Londres accuse Moscou d'avoir un lien avec cette tentative d'assassinat. Moscou refuse toute participation à l'enquête britannique et plusieurs pays, dont la France, procèdent à l'expulsion de diplomates russes. Alors, implication de la Russie ou non dans cette affaire? Et si oui, à quoi joue Vladimir Poutine?
C'est une très bonne question. Ce qui est certain, c'est que même au moment de l'affaire Litvinenko, il n'y avait pas eu de front commun comme ça, où tout d'un coup, presque tous les pays européens et les États-Unis se réveillent et décident ensemble de réagir. Et l'affaire Skripal, en fait, arrive plutôt comme une goutte qui fait déborder le vase de la patience des Occidentaux.
C'est un peu ça, oui.
Depuis 2014, se font raconter des salades régulièrement par Poutine. Mmh. Et en fait, je pense que la question... Alors, les avis divergent. Poutine, est-ce qu'il a vraiment donné l'ordre de cet empoisonnement? Peut-être pas, parce que Skripal n'est pas un maillon suffisamment important. Est-ce que c'est les services secrets russes qui sont derrière? Vraisemblablement. Toujours est-il que ça intéresse très peu, en fait, les Occidentaux, de savoir si Poutine l'a vraiment fait ou pas. Il se trouve que Poutine a fait tellement de choses qu'il nous a dit qu'il n'a pas faites, à commencer par la Crimée, où les petits hommes verts n'étaient pas des soldats russes, mais en fait, c'était des soldats russes. Le Donbass, où il n'y a pas de chars russes, mais en fait, c'était des chars russes. La Syrie, où il n'y a pas de gaz, d'armes chimiques, mais en fait, il y a des armes chimiques. Et à chaque fois qu'il nous dit qu'il n'y est pour rien, il y est en fait pour quelque chose. Donc finalement, c'est cette espèce de... Et alors les Russes crient à l'injustice, parce qu'ils disent encore, vous êtes des russophobes et vous nous en voulez à chaque fois, c'est toujours de notre faute.
On est grands méchants loups, habituels.
Mais il se trouve que là, voilà, il y a cette espèce d'effet d'accumulation qui fait que les Occidentaux, c'est comme si c'était un stop. Et on verra après. Alors là,
Oui, pardon.
On met un point final.
Bon, j'ai bien compris. Il semble d'ailleurs que le premier souci des Russes actuellement tourne autour de ce drame, la tragédie, l'incendie d'un centre commercial à Kemerovo. C'est une ville de Sibérie. 64 morts, dont 41 enfants. C'est ça qui mobilise les Russes en ce moment.
C'est ça qui les mobilise et c'est extrêmement symptomatique parce que cet incendie qui a fait tellement de morts révèle le dysfonctionnement total de tout le système parce que les alarmes de sécurité d'incendie n'ont pas fonctionné parce qu'elles étaient éteintes, parce que quelqu'un les avait éteintes, personne n'avait vérifié si le système de sécurité fonctionnait, et tout ça c'est une histoire de corruption. On peut pas évacuer des enfants parce que les portes sont fermées à clé, et donc tout ça révèle une
dysfonctionnement générale, terrible.
Dysfonctionnement terrible, et les gens sortent et les gens en peuvent plus, et depuis 48 heures les gens sont dans les rues, dans toutes les villes de Russie, et demandent des comptes, et c'est la première fois que autant de gens depuis des années demandent des comptes aux autorités.
Donc c'était important, il fallait en parler. Toute dernière chose, je vais vite parce que c'est la fin, voilà. À propos des expulsions, alors on va se détendre un peu. La Nouvelle-Zélande, figurez-vous, a assuré aujourd'hui qu'elle aimerait bien expulser des espions russes, mais qu'elle n'en a pas sous la main. C'est pas un fake news, hein, c'est vrai. Alors j'ajoute que la Nouvelle-Zélande appartient au club très fermé des Five Eyes, alliance rassemblant autour des États-Unis ses services de renseignement et ceux de la Grande-Bretagne, du Canada et de l'Australie, ça c'est le Commonwealth, sauf qu'il y a les États-Unis. Voilà, c'est une nouvelle version. Merci infiniment pour vos éclairages. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Anna Politkovskaya, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Tristan Gratalon qui était à la technique aujourd'hui.